Pascal Brinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion, de partage ce soir, oui, je disais qu'il est... Il est d'actualité.
Oui, on doit être inspiré parce qu'on oui. on prépare les sujets un an à l'avance.
Oui, oui.
Au mois de juillet, pratiquement.
Oui, pour la saison, oui.
Et quand il y a eu les attentats, on a fait un sujet sur le syndrome religieux.
Oui.
Donc, qui tombait en plein dans le thème. Et là, on tombe aussi sur un thème d'actualité est-ce que c'est un trouble psychique
ou péché
ou est-ce que c'est un péché, voilà, avec
pédophilie,
toute la,
enfin on parle de pédophilie.
L'histoire qu'il y a eu par rapport à la pédophilie ou qu'il y a encore
toujours
voilà, donc on
En tout cas, c'est un sujet complexe.
C'est un sujet complexe.
Mais qui demande à, justement, à éclaircir.
Qui demande à être un peu éclairé. Et puis c'est complexe parce que c'est deux paradigmes ou deux visions du monde qui sont différentes. D'un côté, on regarde l'aspect psychologique. Voilà. Est-ce que c'est un trouble ou pas? De l'autre côté, on regarde l'aspect spirituel. Est-ce que c'est un péché ou pas? Et là, on voit qu'on est sur deux registres différents.
Et justement, dans il y a un amalgame, le tout.
Voilà. Il y a un amalgame et c'est important de bien les différencier. Même si on verra, il peut y avoir des liens entre les deux, ou plutôt des interférences, parce qu'on est dans le domaine du registre humain, tout simplement parce que la personne est une et qu'il faut aussi la regarder dans sa globalité et pas la découper. Voilà. Mais ça veut dire que... il y a quand même, à un moment, la balance qui va pencher d'un côté. C'est pour ça qu'on peut dire péché ou trouble psychique. Parce qu'il y a un moment, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte, finalement? Qu'est-ce qui est le plus important à prendre en compte?
Dans cette situation particulière.
Dans la situation particulière de la personne. Et il y a un moment, ça va être le trouble psychique. Et puis, pour d'autres personnes, ça sera l'aspect du péché. Voilà. Mais c'est important de clarifier les deux pour savoir où est-ce qu'on se trouve et quelle est la meilleure action possible.
La solution, enfin, le meilleur soin, si on peut dire, est-ce qu'il est d'ordre spirituel ou psychique pour une situation donnée?
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on ne va pas prendre les mêmes moyens?
Alors, on ne va pas prendre les mêmes moyens. L'un n'empêche pas l'autre.
Oui.
C'est-à-dire, je lisais, je crois, sur Facebook, il y a pas peut-être aujourd'hui ou hier la question de mais est-ce qu'on peut pardonner à une personne et lui donner une deuxième chance finalement? Oui, on peut pardonner, ce qui n'empêche pas que la personne doive se soigner.
Bien sûr,
les deux sont pas incompatibles.
Exactement.
On peut alors, obligé, je sais pas, si, légalement, il y a des obligations de soins par la justice. Mais en tout cas, on peut fortement inciter une personne à soigner et en même temps lui pardonner spirituellement.
Mais oui, parce que autrement, c'est un processus qui ne fait qu'accentuer dans un mauvais sens.
Voilà, et on peut pas éliminer un aspect... En tout cas, pas quand c'est celui de la maladie.
Alors, peut-être...
Mais en même temps, là, je crois, on tombe en plein dans le sujet, mais il y avait aussi l'idée, parfois, de déculpabiliser certains et de les aider à retrouver une paix intérieure. Toute relative, parce que quand il y a des scrupules qui viennent s'ajouter à un trouble psychique, on verra que parfois, il y a des troubles psychiques, on donnera quelques exemples, qui donnent une grande culpabilité, qui génèrent des scrupules. Et là, alors scrupules religieux, parce que les personnes, justement, se sentent ou se croient dans le péché. Et là, c'est important de déculpabiliser, de leur dire que non, c'est un trouble psychique, que c'est pas un péché, que c'est pas la peine de se rajouter.
Oui, en plus, oui.
En plus, une culpabilité religieuse.
C'est ça.
Voilà. Et puis, à l'inverse, parfois, ben, il est aussi utile d'aider certaines personnes à retrouver un cadre de vie, alors à travers des soins, et puis aussi à prendre leurs responsabilités de ce qu'ils ont fait.
Voilà. Des actes, bien sûr, oui.
Et dans le cas de la pédophilie, ben, là, c'est particulièrement important, autant quelqu'un qui... On citera tout à l'heure les boulimiques, ben, faut leur retirer la culpabilité et les scrupules. Autant quelqu'un qui est pédophile, faut faire la démarche inverse et lui rajouter. Alors, on verra que c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas de culpabilité, mais en tout cas,
oui, ils ne sont pas, ils n'ont pas le,
ils n'ont pas la notion du mal qu'ils font.
Ouais.
Et donc, en tout cas. Les aider à acquérir un minimum de conscience morale.
C'est ça, oui. Alors, on va peut-être parler d'abord de la notion de péché, puis de l'aspect psychologique pour bien discerner justement les registres différents.
Oui, alors, la notion de péché, elle s'enracine, mais ça, on le sait tous, dans la Genèse avec le péché originel d'Adam et Ève. Dont le péché principal, c'est de se détourner de Dieu.
Oui. Hein? C'est ça le grand malheur, finalement.
Voilà. Oui,
c'est la cause première de tout le reste.
Du péché originel et de tous les autres péchés.
Oui.
Quand on parle de péché, on parle de se détourner de Dieu.
C'est ça. Hein? Le péché, c'est de lui tourner le dos. Enfin,
voilà.
Et c'est raté, des fois, on dit, le péché, c'est rater la cible. Parce que la cible, c'est d'être en communion avec Dieu,
voilà,
si on peut
c'est
dire.
C'est la communion avec Dieu. Mm. Le péché, c'est ce qui dévie, détourne de Dieu.
C'est ça.
Alors, je me suis penché plutôt vers les pères du désert, qui disent que, finalement, ben, à partir du péché originel, les vertus en l'homme, donc en Adam et Ève, se sont étiolées et ils ont perdu la ressemblance. Alors, on va expliquer ça. L'homme, dans la Genèse, est créé à l'image et à la ressemblance. Et donc, pour les pères du désert, ils ont perdu la ressemblance.
Parce que les vertus se sont étiolées, justement.
Voilà. Et que c'est par la pratique des vertus que l'homme peut acquérir la ressemblance, donc maintenant au Christ, à partir du péché originel, et que toute vertu, ben, finalement, elle est vivifiée par la grâce de l'Esprit-Saint. Donc on retrouve, dit autrement, la notion de grâce, la notion de salut. Voilà, mis sur un plan des vertus et des passions et de comment l'homme s'est détourné. Alors, pour expliquer ça, ils ont une image, c'est que l'homme, donc, au paradis, sera en quelque sorte dans un état d'enfance et il devait maturer, en quelque sorte, devenir adulte.
Oui.
Que tout le chemin est de sainteté, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, constitue un état de croissance.
Oui.
Et que l'accomplissement de cette union par la grâce de l'Esprit-Saint constitue l'état adulte.
C'est ça.
Voilà.
Alors, ils ont voulu devenir adultes avant leur sang. Brûler les étapes, on peut dire. Non.
Alors,
par un contexte.
Brûler les étapes, mais ils ont voulu être comme Dieu.
Oui, c'est ça.
En se passant de Dieu.
Oui.
C'est justement par ce passe se passer Dieu. C'est un peu la promesse du serpent, vous serez comme des dieux. Voilà, mais...
Oui, vos yeux s'ouvriront, voilà. Et donc, ils ont cru, c'était tentant, ben c'est la tentation.
Oui, voilà, c'est toute la tentation. Mais ce qui est important, c'est qu'avec la notion de péché intervient celle des vertus et des passions. Et là, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus dans ce thème. Et finalement, le péché, c'est un déséquilibre entre les vertus et les passions. L'homme se détourne des vertus, ce qui a pour conséquence l'apparition des passions dans leur forme négative. Parce que les passions ont aussi une forme positive.
Une force de vie,
Alors,
si elle est bien orientée.
Force, voilà, par exemple, dans les passions, on va les citer, mais il y a la crainte. Ben, il y a la crainte d'être séparé de Dieu. Donc là, c'est une passion qui a
qui
un
oriente.
Aspect positif parce qu'elle oriente vers Dieu. Et puis, après... Dans son aspect négatif, ça va être toutes les peurs humaines, l'anxiété, la peur de l'avenir, voilà.
Même dans les passions positives, on peut dire que, par exemple, la colère de Jésus, c'était positif, puisque l'homme se détournait, les marchands du temple, ça détournait de Dieu.
Ça détournait de Dieu, et sa colère, c'est pour ramener l'homme vers... L'objectif est le lieu du temple qui est spirituel et non pas marchand. Voilà, et ça c'est vrai pour toutes les passions. Chaque passion a un aspect positif, mais si l'homme perd les vertus, se développe l'aspect négatif.
Oui, d'accord. Alors les pères du désert ont bien étudié cela, compris cela.
Ils ont puis après ça a continué.
Oui, bien sûr. Non, mais déjà eux ont bien compris où ça se situait dans l'homme.
Dans l'homme, entre le rapport et passion et vertu, et puis aussi pour eux, le péché constitue la conséquence d'un mauvais usage du libre arbitre.
Oui.
Ce qui fait que ça pervertit les facultés de l'homme, alors son intelligence, sa volonté, son désir, et même ses perceptions, et pour le coup, le détourne de Dieu. C'est-à-dire, si l'homme fait un mauvais usage du libre arbitre, ça pervertit, ça le détourne de Dieu, et ça pervertit ses facultés.
Et donc, de plus en plus, il est brouillé, il est obscurci.
Il est de plus en plus obscurci et ça vient renforcer le côté passion. Et là, on est vraiment dans la description spirituelle du péché originel.
Alors, on va y revenir et puis vous allez nous rappeler les passions de l'âme. Mais on va écouter tout de suite, c'est Jean-Louis Aubert qui chante « Parle-moi ». Voilà, dans le dialogue, peut-être qu'on peut arriver
à résoudre certaines choses.
Certaines choses.
Radio Notre-Dame. Jamais ne nous a
Voilà, c'était donc Jean-Louis Aubert, parle-moi. Donc nous parlons ce soir, eh bien, on essaie de clarifier hein, ces notions de trouble psychique ou péché.
Hein. Voilà.
Alors, on a parlé de la notion de péché en rappelant un peu justement la Genèse, l'enracinement hein, dans le fait de se détourner de Dieu et combien les pères du désert et puis après d'autres hein, ont analysé combien les vertus s'étiolant, la perte de ressemblance à Dieu.
Voilà. Hein, le déséquilibre oui. entre les passions et les vertus.
Et les vertus, oui.
Et un mauvais usage du libre-arbitre. Mmh. Voilà, il y a un point qui est important, qu'on rappellera plus tard, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Aussi. Ah oui, l'arbre, bien sûr, oui, c'est ça.
Voilà, avant, l'homme ne connaissait pas le mal.
Non.
Et c'est à partir du péché originel qu'il a cette connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on verra après dans différentes pathologies.
Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Donc on retrouve ce qui est dit là de l'essentiel dans la Genèse, hein, le problème tel qu'il se présente.
Le péché, c'est aussi la connaissance du bien et du mal.
La conscience
du bien et du mal.
Oui.
Le détournement de Dieu par son libre arbitre et le développement des passions parce que les vertus sont affaiblies.
Voilà. Donc on peut peut-être rappeler justement les passions. Il y en a 10 ?
Oui, enfin, on a retenu 10.
Les passions de l'âme, en tout cas.
Voilà, alors la première, c'est la philosie ou philotie, je ne sais pas
comment
on le prononce, est l'amour excessif de soi. La seconde, la gourmandise en termes de qualité ou de quantité, et on pourra justement en parler tout à l'heure. La luxure qui correspond à la sexualité, l'attachement à l'argent et l'avarice, mais d'une façon plus globale, on pourrait dire l'attachement aux biens matériels, l'acédie qui correspond à une dépression spirituelle, aujourd'hui on dirait une dépression existentielle. Donc la perte de sens, le dégoût, voilà, tout un tas d'aspects dépressifs.
Liés aux circonstances, à l'existence.
Oui, aujourd'hui, on appellerait ça une dépression existentielle parce qu'il y a une perte de sens dans la vie, en fait. Alors, sur le versant spirituel, dans se sentir abandonné de Dieu ou se sentir coupé de Dieu, mais ça rejoint aussi le sens de la vie. La colère, on en parlait avec la colère de Jésus dans son aspect positif.
Oui.
La crainte.
On en a parlé, oui.
La vanité, qui est une fierté excessive. Et puis l'orgueil, qui est de se croire supérieur aux autres. Alors, de ces passions, après, il en découle la vision morale, qui dit que le péché, autrement dit, ce qui détourne de Dieu est mal, et que le mal, finalement, c'est l'absence de bien pour les pères. C'est-à-dire que le mal en lui-même n'existe pas, mais alors, par contre, il a des manifestations concrètes dans la vie, mais que c'est une absence de bien.
Oui.
Tout comme on pourrait dire, l'obscurité, c'est
une absence de lumière.
Une absence de lumière. Donc ça, c'est pour expliquer un peu la vision des pères du désert. Voilà, et tout ce qu'on vient de voir sur le péché originel, finalement, concerne aussi le péché personnel de chacun, Et dit autrement, mais le péché, ça constitue un choix qui détourne de Dieu pour faire ce qui est considéré comme moralement mal aujourd'hui, ou de tout temps d'ailleurs.
De tout temps, oui.
Et c'est important parce que ça suppose à la fois un choix, donc l'usage du libre arbitre, et la conscience de ce choix.
Mmh.
Hein? Il faut à la fois faire le choix, que ce soit volontaire,
oui.
Mais il faut aussi avoir conscience du choix qu'on pose et de ses conséquences.
Mmh. Et là, c'est pas toujours les... Oui. Alors, pour qu'il y ait un péché personnel, oui.
Voilà, ça veut dire qu'il faut que la personne soit consciente du mal. C'est bien pour ça, ça rejoint l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut qu'elle soit consciente du mal, mais aussi qu'elle puisse choisir, c'est-à-dire faire usage de son libre arbitre. Et du coup, il faut évaluer à chaque fois quel est le degré de libre arbitre et quelle est la conscience morale de la personne.
Mmh.
Et je rajoute bien morale, c'est pas seulement la conscience.
Ne pas être conscient, oui.
On peut être conscient, et on verra, mais même parfois la conscience est un peu altérée.
Mmh. Mais conscience morale.
Mais conscience morale aussi.
Mmh.
Voilà, et on verra combien c'est important pour pouvoir discerner si ça relève d'un trouble psychologique ou du péché, et dans quel cas, ce qui est important, c'est de regarder le trouble psychologique. Et après tout, la personne s'ébrouillera devant Dieu avec son péché, mais...
Oui, pour le soin, enfin, voilà.
Pour les soins, pour aider et pour trouver une solution. Ce qui sera important dans certains cas, ce sera de regarder uniquement le trouble psychologique. Et puis, dans d'autres cas, ça sera de regarder uniquement l'aspect de pécheur.
Mmh. Alors, peut-être... Rappelez-nous aussi quels sont ce qu'on appelle péchés capitaux, hein, et pourquoi on les nomme ainsi,
voilà.
Où trouvent-ils leur origine aussi?
Alors, les sept péchés capitaux, finalement, trouvent leur origine dans les passions qu'on a vues et les regroupent. Hein. On parle des sept péchés capitaux, on a vu qu'il y a une dizaine de passions.
Passions, oui. Mmh.
Donc, c'est un peu un regroupement pour simplifier les choses. Alors, ils sont dits capitaux non pas par leur gravité, mais parce que sept-là vont découler d'autres péchés.
Capital, la tête, quoi.
Voilà, ils sont à la tête et non pas, ils sont pas forcément plus graves que les autres.
Mais deux découlent d'autres.
Mais voilà, à partir de cela, ça va ouvrir la porte à d'autres péchés. Alors, le premier, c'est l'orgueil. On va retrouver les mêmes. Hein,
oui.
L'avarice, l'envie dans le sens d'une tristesse de ne pas avoir ce que les autres ont. Hein? Donc ça rejoint plutôt la tristesse
dans les passions.
La colère, la luxure, la gourmandise et la paresse qui, elle, rejoint plutôt la sédie, donc le côté dépressif existentiel.
Oui, on voit donc le lien entre les passions et les péchés capitaux.
Voilà. En fait, c'est une autre façon d'exprimer.
Oui.
Les pères disent, avec l'affaiblissement des vertus apparaissent les passions.
Les passions négatives, oui.
Voilà. Et de cela découlent les
péchés.
Capitaux.
Qui entraînent d'autres, une série, quoi.
Oui.
Qui ouvrent une série. Triste série. Alors, voilà, donc...
Voilà, après, ben, on peut relire le catéchisme de l'Église pour approfondir toute cette notion des, oui. des péchés capitaux.
Mais c'était bien de...
De rappeler oui. un peu la, la vision, comment ça s'enracine, comment ça se déroule, en quelque oui. sorte, en étapes.
Comment ça s'affaiblit et comment l'homme dégringole, quoi.
Voilà.
On peut dire. Alors, ça, c'est pour le côté péché spirituel, on peut dire.
Oui.
Mais qu'en est-il alors en, en psychothérapie ?
Alors, dans, dans le cadre de la psychothérapie, nous ne nous occupons pas du péché qui concerne la vision spirituelle et morale. En psychothérapie, il n'y a pas de jugement moral sur ce que fait la personne.
Ce n'est pas ce plan-là, quoi.
Ce n'est pas du tout ce plan-là, et on ne juge pas. Alors, souvent, les gens comprennent pas, mais il n'y a pas de jugement en thérapie, et de toute façon, on est occupé à autre chose, à aider la personne à comprendre les processus,
Et oui,
du coup,
ça.
On n'est pas dans le jugement, on essaye de comprendre avec la personne.
Et d'aider à dénouer.
À dénouer. Ce qui fait qu'on ne parle pas du bien et du mal. Parfois même, on corrige les personnes qui seraient scrupuleuses ou qui seraient trop à parler de ce qui est bien, de ce qui est mal.
Oui, qui portent donc un jugement sur... Et qui, quelque part, ça bloque le, la compréhension, peut-être.
Voilà, ça les empêche d'accéder à leur processus, à la compréhension de leur processus.
La façon de leur fonctionnement.
Voilà. Et donc, on ne parle pas du bien et du mal, mais du bon et du mauvais. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Alors, pourquoi ce n'est pas la même chose ?
Alors, dit autrement, c'est est-ce que c'est bon pour la personne en thérapie et son environnement, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'environnement, où est-ce que cela l'amène à de la souffrance, à des impasses, à des échecs ou à des répétitions.
Un enfermement, toujours.
Un enfermement. Et parfois, on dit le mieux est l'ennemi du bien.
Oui.
Parfois, la personne veut tellement bien faire ou veut toujours mieux faire que ça l'amène à des impasses et donc on l'aide à comprendre que à vouloir trop bien, parfois ça lui nuit et que c'est mauvais pour elle ou que c'est mauvais pour sa famille ou pour son environnement.
Alors peut-être qu'il est bon de rappeler le but de la psychothérapie, pour que ce soit aussi clair.
Oui, alors le but, c'est d'aider la personne à prendre conscience de son mode de fonctionnement, comment ça se passe, et de ce qui motive ses choix, que ce soit au niveau conscient ou inconscient, et plutôt d'ailleurs au niveau inconscient, c'est-à-dire que la personne arrive avec un certain niveau de conscience et en fait, en psychothérapie, on l'aide à devenir de plus en plus consciente d'elle-même, justement pour qu'elle puisse retrouver sa liberté de choix et ne dépende plus, ou en tout cas beaucoup moins, des mécanismes inconscients.
C'est ça. Oui, elle retrouve une liberté dans par la prise de conscience.
Par la prise de conscience de son fonctionnement, de ce qui la motive inconsciemment. Alors, ce n'est pas toujours agréable. Il y a des fois, la personne se rend compte que finalement, elle croyait qu'elle voulait faire bien, mais que bien qu'elle croyait faire, c'est pour embêter le voisin, parce que comme ça, elle se sent supérieure à l'autre. Vous voyez ?
Quand Saint Paul dit je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je voudrais pas. Enfin,
voilà, ça rejoint cet ordre d'idée-là.
Mais il est conscient quelque part d'un fonctionnement, même si c'est pas aussi.
Et le but de la thérapie, c'est d'aider la personne à prendre conscience, de tout ce qui la motive. dont elle n'a pas forcément conscience, et puis de comment ça se passe, comment elle s'y prend aussi, comment elle s'y prend pour être en échec, comment elle s'y prend, voilà, si elle est timide, bah, quel mécanisme elle met en place pour rougir, et comment elle pourrait faire autrement. Comment elle s'y prend pour se paralyser dans certaines situations et comment elle pourrait faire autrement.
Donc elle prend une distance par rapport à son mode de fonctionnement.
Alors c'est surtout qu'elle elle en découvre les processus et en étant consciente de comment elle fait, ça lui donne la possibilité de changer et de faire autrement. D'autant plus qu'elle en voit les effets et qu'elle réalise que ben, par sa façon de faire, par ce processus-là, elle se met en échec ou en souffrance et qu'en changeant, bien souvent en changeant pas grand-chose, mais voilà, le tout c'est de savoir à quel endroit on peut avoir un levier d'action. En changeant pas grand-chose, ben, elle peut aller beaucoup mieux et être plus heureuse dans sa vie. Voilà, dit autrement, ben, l'objectif, c'est que la personne soit libre et responsable de sa vie, tout en prenant en compte les autres. Voilà. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas que de faire n'importe quoi, hein.
Oui, bien sûr.
Parce que on a dit quand même ce qui est bon ou pas pour soi et pour l'environnement. Oui. Donc, il y a aussi les autres à prendre en compte. Mais qu'elle trouve une conscience d'elle-même et une liberté de choix que la plupart de temps, elle n'est pas, en tout cas, pas suffisamment pour pouvoir s'épanouir dans la vie. Alors, ça veut dire que parfois, mais il est nécessaire de desserrer un peu un carcan moral quand celui-ci est trop rigide, trop tyrannique, par exemple dans les scrupules. Les scrupules, c'est simplement une morale excessive et rigide. Voilà, donc ça, faut le desserrer un peu parce que ben, ça va à l'encontre de la santé psychique. Et puis, on pourrait même dire que ça va aussi à l'encontre de la foi, en tout cas de la charité, et de la charité envers soi-même.
Les jugements, tout voilà. Ça, qui en découlent.
Oui. Et puis, à l'inverse, il arrive qu'il soit utile de redonner un cadre à la personne pour l'aider à gérer sa vie, non pas dans un objectif moral, mais dans un but de fonctionnement sain. Alors sain dans le sens de pas de souffrance ni pour la personne, ni pour
l'entourage.
Ni pour l'entourage.
Et donc, il faut donc aider l'individu, dans certains cas, à développer une conscience.
Alors, dans certains cas, oui, à développer une conscience morale saine, pas excessive.
Oui, mais saine, oui.
Mais saine. Quand elle est défaillante ou absente, c'est-à-dire quand la personne ne ressent pas de culpabilité par rapport à des actes qui, socialement, sont clairement répréhensibles.
Et là, on pense à la pédophilie.
À la pédophilie, par exemple, où la personne ne va pas se sentir coupable. Et c'est pas normal. La culpabilité... Dans certains cas, on pourrait dire dans la névrose, c'est douloureux, ça amène de la souffrance, comme les scrupules, mais c'est aussi, quand elle est saine, quelque chose qui nous protège de la folie. Parce que sans culpabilité, on pourrait faire n'importe quoi. Et donc, parfois, il est nécessaire, alors, pas de culpabiliser, mais de redonner de la conscience morale à la personne.
Un grand merci, Pascal Parinet. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. On écoute tout de suite, c'est Lojo. Tout est fragile.
Radio Notre-Dame.
ville des fêtes aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. Les spasmes de la nuit émeuvent quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux. Après minuit, à la peau comme des sucreries d'Orient, on fait danser contre leurs fesses des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Ce versant lunaire a mille instants de sucre, mille instants de sel. Passe le vent, passe l'imprudence, nos bouleversements. Quelques ombres tardives, tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. Les humains passent dans les rues engourdies, des arabesques au satin de la peur, à Madame Carnaval à son instant de grâce.
C'était l'autre jour, tout est fragile. C'est vrai que il y a des fragilités psychiques voilà, qui sont à prendre en compte.
Oui. Alors, fragilité, tout le monde a des fragilités.
Mais les troubles, c'est les troubles, c'est autre chose, c'est un autre
domaine. On est dans le domaine de la maladie.
De la maladie, oui. Ah. Oui. Alors, peut-être pouvez-vous répondre à Israël, que nous saluons. Voilà, Israël nous dit les prêtres ne pouvant se marier, voilà, c'est pourquoi découle la pédophilie. C'est de là que découle la pédophilie.
Alors, ça, c'est un cliché bateau qui est souvent repris, d'ailleurs, dans les médias. Ça n'a rien à voir. Alors, si quelqu'un voulait s'opposer aux arguments des prêtres mariés, il pourra dire... des prêtres non mariés, il pourrait dire les prêtres non mariés vont avoir des liaisons avec des femmes adultes. Voilà. Le fait qu'il...
La pédophilie n'a rien...
Le fait de la pédophilie n'a rien à voir, c'est une maladie.
C'est pas d'ordre la sexualité. Alors, entre, est-ce que la part...
Ça se manifeste...
Par la... Oui.
Par la sexualité vis-à-vis des enfants.
Oui.
Mais,
c'est
pas un besoin sexuel naturel, en quelque sorte, mais une perversion. Et c'est ce qui explique que parmi les pédophiles, il y a plein d'hommes mariés.
Et oui.
Et, et ça ne les empêche pas d'être pédophiles. Et ça n'a pas guéri en étant marié avec quelqu'un. Ça n'a pas guéri leur pédophilie. On est vraiment dans deux registres différents. Quelqu'un qui aurait des besoins sexuels, eh bien, il irait... je ne sais pas, si on parle d'un prêtre, il aurait une aventure avec quelqu'un. Voilà.
Mais pas
avec un enfant.
Ah oui.
S'il l'a avec un enfant, c'est bien qu'il est malade et qu'il a cette maladie qu'on appelle la pédophilie. De la même façon, alors on pourrait rajouter, on confond souvent homosexualité et pédophilie.
Oui, oui.
Ça n'a rien à voir non plus.
Ben oui, c'est important de le dire. Oui.
L'homosexualité, c'est l'attirance pour une personne du même sexe.
Oui.
Mais... pubère, enfin qui est formé,
oui,
donc
oui.
Quelqu'un d'adulte,
oui,
voilà, ou de grand adolescent, on pourrait dire aussi, alors que la pédophilie est s'adresse, enfin en tout cas l'attirance est pour des enfants non pubères, donc non formés. Voilà, on voit que c'est différent.
Oui.
Il ne faut pas confondre la sexualité, même hétérosexuelle, et les besoins hétérosexuels, l'homosexualité et la pédophilie. Ce sont des choses différentes.
Voilà. Mais souvent, il y a des
Alors,
fois, des
souvent,
confusions.
On amalgame, on dit, parce que la personne n'a pas de sexualité, ça fait qu'elle devient pédophile. Ben non, ça n'a rien à voir. Ou d'autres fois, il y en a qui disent, l'homosexualité, ça rejoint la pédophilie.
Ben non,
ça n'a rien à voir non plus.
Donc, c'est bien de clarifier tout ça.
Oui.
Hein. Alors... On va poursuivre. Je pense que vous avez répondu clairement à Israël et à tous ceux qui pouvaient se poser les mêmes questions. Donc, on va peut-être discerner entre... Comment discerner, justement, entre péché et trouble ?
Voilà, on va le faire.
Parce que si on est sur des registres différents, en même temps... oui, l'homme est un, quoi.
L'homme est un, c'est... Et ce qui fait que c'est souvent difficile à discerner, en tout cas pour ceux qui, dont ce n'est pas le métier, un trouble psychique et un péché. Et souvent, peut-être c'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans toute cette polémique, c'est que le croyant... a tendance à ne voir que l'aspect péché.
Oui.
Ou à ramener les choses
à cet aspect-là.
À l'aspect du péché.
C'est peut-être un peu, on y reviendra avec Mgr Lalanne, c'est peut-être maladroit,
alors,
mais il a voulu faire un peu...
Lui, il a voulu donner avis un peu plus lucide.
Oui, c'est ça.
Voilà, mais qui n'a pas été entendu d'une certaine façon.
Oui.
Alors, j'ai pas entendu l'émission où il est intervenu. J'ai vu après coup des commentaires. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que ce qu'il disait était assez juste.
Il faisait pas justement cet amalgame.
Voilà,
courant.
Il essayait de clarifier les choses, prendre en compte la dimension psychologique et justement ces notions de libre arbitre de conscience. Et puis, apparemment, beaucoup de chrétiens n'entendent pas ces notions-là et pensent tout de suite au péché. Voilà. Mais le problème, c'est que, peu importe d'ailleurs, j'ai envie de dire, peu importe que ça soit un péché, le problème, c'est qu'il faut soigner les personnes.
Mais aussi, certains prêtres, dans les confessionnaux, il peut y avoir aussi ces confusions chez une personne quand elle se confesse de péché alors que c'est un trouble.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quand c'est l'année dernière à Saint-Louis-d'Antin, on avait fait une réunion avec les prêtres justement pour clarifier les aspects de troubles psychiques. Un peu. Alors, fait différemment, regarder un peu ces notions péché et...
Mmh. Oui, parce que pour eux, quand ils sont dans les confessionnaux aussi, c'est ça, il faut être un peu au clair là-dessus.
Oui. Et c'est quelque chose d'important. Alors, ça n'empêche pas le sacrement de réconciliation et le pardon de Dieu. Mmh. Mais il y a aussi l'aspect de soigner la personne qui est à prendre en compte. Et là,
c'est un autre registre.
C'est un autre registre.
Oui.
Voilà, mais pour mieux comprendre, on va prendre des exemples.
Oui, c'est ça, justement. Ça va nous permettre de mieux poser la problématique.
Oui. Alors, on peut commencer avec la gourmandise, donc un péché, et la boulimie.
Oui. Gourmandise et boulimie, oui.
Alors, le péché de gourmandise, ça se caractérise soit par l'aspect qualitatif, donc le plaisir de la bouche, d'aimer des bons mets, en quelque sorte, ou par l'aspect quantitatif, où on dirait le plaisir du ventre.
Plaisir de la bouche ou plaisir du ventre, c'est la gourmandise, oui.
Et on va regarder l'aspect quantitatif avec ce qu'on appelle dans le langage courant la gloutonnerie.
Voilà, il y a des nuances dans tout ça.
Alors, dans la gloutonnerie, la personne mange d'une façon excessive.
C'est un glouton. D'ailleurs, on a dit c'est un glouton parce qu'il mangeait. Justement, le côté de vouloir... on le comparait à Jean-Baptiste qui lui était ascète et puis mangeait rien. Voilà. Et par comparaison, lui qui était dans les, qui partageait les repas, qui allait, voilà. Donc on avait qualifié de glouton.
Voilà. Est-ce qu'il l'était? Je pense pas.
Sûrement pas. Non.
Quand une personne mange de façon excessive, ça va la rendre lourde. La faire somnoler, on sait tous que les repas de fête, on est un peu
un peu lourd.
Et du coup, ça va la couper de la dimension spirituelle, parce que la personne,
elle
va digérer, elle n'aura pas envie d'aller prier ou d'aller...
Alors, elle n'est plus disponible. Voilà. C'est pour ça que le jeûne, au contraire, ça rend disponible pour la prière,
Et puis, ça la coupe aussi de la charité qui, normalement, incite au partage. Mmh. Et donc, à pas trop manger. Mmh. Mais ce qui est important dans la gloutonnerie, c'est que la personne est à la recherche d'un plaisir.
Oui.
Qui va trouver dans un sentiment de satiété.
Oui.
Donc, il s'agit d'un choix libre.
Mmh.
De manger beaucoup pour se faire plaisir. Mmh. Et on peut voir l'image quand on a fait un bon repas, on se frotte le ventre, on se tape sur le ventre, et on est heureux d'avoir mangé autant. Quand on n'a pas été à l'excès où ça devient indigeste. Alors que la boulimie, elle, c'est un trouble alimentaire.
C'est pas le même registre.
Et c'est complètement différent, même dans tout ce qui se passe. Alors, on ne va pas développer tous les aspects, mais juste pointer quelques différences.
Oui.
D'abord, la personne ne choisit pas dans la boulimie, mais elle subit sa pulsion de manger.
Ouais, c'est une pulsion et qu'elle choisit pas, elle subit.
Et c'est même pas une pulsion alimentaire, c'est pas parce qu'elle a faim. C'est vraiment une pulsion qui l'incite à manger pour remplir un vide. Donc, elle ne fait pas de choix. Elle est vraiment dans quelque chose qu'elle subit. Ensuite, elle a pas de plaisir. Et elle se dit pas avant, je vais me faire plaisir à manger. parce que même pas celui de la satiété, comme quand comme le glouton ou comme nous quand on a fait un bon repas, parce que la personne boulimique ne ressent pas la satiété.
C'est un puits sans fond.
Voilà. Enfin, en quelque sorte.
Oui, on peut dire, oui.
En quelque sorte. Donc, elle a ni le plaisir de la bouche, ni le plaisir du ventre. Et c'est même l'inverse, parce que, en général, elle ressent de la culpabilité, elle ressent de l'angoisse, elle va même se faire vomir. On voit qu'elle est dans le déplaisir, plutôt.
Ah oui.
Hein? Et donc, on voit que dans le péché de gourmandise, ben, il y a le choix d'un plaisir, un choix volontaire d'un plaisir, alors certes mal digéré, qui donne l'aspect pécheur, alors que dans la boulimie, on est dans une personne qui subit un trouble psychique.
Là, c'est clair, on voit bien
c'est
la
clair.
Différence. Hein, oui.
Voilà. Et je pense qu'il viendrait à l'idée à personne de dire que quelqu'un de boulimique serait dans le péché.
Ben oui, évidemment.
Parce que
ça, on comprend, hein.
Ça ne concerne absolument pas la morale ni la spiritualité.
Un grand merci, Pascal Parigné. 01 56 2 x 44 00 pour nous rejoindre. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
7h en relations humaines. Et nous parlons ce soir de troubles psychiques ou péchés. Hein. On essaie de bien discerner la différence à travers des exemples que vous nous donnez. On va poursuivre. Mais est-ce que vous avez des... justement, vous proposez quelque chose qui puisse aller dans ce sens-là, dans le...
Alors, on a un stage le 23-24 mai sur sortir de la dépendance affective ou des dépendances en général. Voilà, qui rejoint un peu ces thèmes-là, parce qu'on a parlé de la boulimie, on pourrait l'élargir à tous les autres troubles compulsifs ou à toutes les addictions aussi. Mm-hmm. Voilà, donc là, on voit qu'on est dans des choses de l'ordre de la dépendance. Voilà, donc on a ce stage-là, 23-24 mai, sur le sortir de la dépendance affective, mais élargi. En juillet, nous avons un stage sur la confiance en soi. C'est un peu différent. Voilà, c'est comment retrouver la confiance en soi. Et puis, un autre stage sur sortir du harcèlement, de la violence, enfin, ou des positions où on subit de la violence, ou des positions où on subit la perversion narcissique, par exemple. Donc, tout ce qui est de l'ordre du harcèlement, de la violence conjugale, comment en sortir. Voilà, ça, c'est au mois de juillet. Un téléphone pour avoir des renseignements, c'est le 06 84 49 35 19.
06 84 49 35 19,
Ou alors en envoyant un mail à contact au singulier, @ifpsy.com.
Voilà.
contact@ifpsy.com.
Voilà. Donc, on va poursuivre, puis nous les renseignements sont standards dans la journée, mais on va poursuivre d'autres exemples, pour différentes, pour bien discerner, la différence entre troubles psychiques et péchés.
Voilà. Alors, un autre exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler des mauvaises pensées. Il arrive à des personnes qui souffrent de troubles psychiques d'avoir des pensées désagréables ou des pensées qu'elles jugent mauvaises. Et pour le chrétien, par exemple, ça peut aller jusqu'à des pensées blasphématoires. Alors, c'est très différent de ce qu'aurait, par exemple, quelqu'un qui en voudrait d'une façon ou d'une autre à la religion et qui aurait des pensées critiques ou mauvaises sur la religion. Là, on parle de personnes qui, au contraire, sont croyantes, vont à la messe. Mais subit par moments des pensées qu'elles jugent mauvaises et qui, pour le coup, relève d'obsession. Et d'ailleurs, ces pensées se manifestent le plus souvent pendant des temps de relâchement, c'est-à-dire des temps de prière, ou pendant la messe, pendant la communion, par exemple, voilà, dans des temps où elles ne sont plus en activité, mais elles peuvent se détendre un peu. Et voilà. Et là, on est dans un trouble obsessionnel dont souffre l'individu, qui se sent coupable, et même souvent très coupable, d'avoir ce type de pensée, et non pas d'un péché. Voilà. C'est un trouble, on est dans la maladie psychique. Ce n'est pas un péché, ça n'a rien à voir avec un péché où quelqu'un en voudrait à l'église.
Il faut bien faire la différence entre. Voilà. Et pourtant,
La personne le vit comme si elle était en état de péché, mais non, elle subit simplement des pensées parasites en quelque sorte. Qui lui viennent malgré elle, et elle lutte. Contre toutes ces pensées, mais elle n'y peut rien. Alors, ça peut être des pensées sexuelles au moment de la prière, ou des pensées blasphématoires, ou des insultes vis-à-vis de Dieu ou des prêtres. Enfin, il y a tout un temps, ça varie en fonction des personnes.
Ce sont des pensées parasites,
Voilà. Là, on est vraiment dans le trouble, la maladie psychologique, et non pas dans le péché.
Alors, d'autres situations, peut-être ?
Oui, alors, déjà, on peut dire dans ces deux premiers exemples, boulimie et mauvaise pensée, la personne est consciente de son trouble. Et elle ressent de la culpabilité.
Elle l'interprète mal.
Voilà. Et souvent, une grande culpabilité, en plus. Alors, maintenant, on va passer à l'orgueil. Donc, qui est aussi un péché, et puis au trouble narcissique.
Alors.
Souvent, on dit l'orgueil, c'est du narcissisme. Mais c'est important de ne pas confondre l'orgueil et ce qui serait une problématique narcissique. L'orgueil, ça rejoint l'excès de narcissisme.
Un excès, d'accord. Ouais.
Mais c'est complètement différent quand il s'agit d'une défense face à un manque de narcissisme ou à une mauvaise image de soi.
Mais il peut y avoir un manque de narcissisme.
Voilà. Parce que pour la majorité des personnes, quand on parle narcissisme, oui, on pense à de l'orgueil, oui, à de l'excès de narcissisme. Mais il y a des gens qui manquent de narcissisme ou qui ont une fragilité, en quelque sorte, narcissique. Et dans ce cas, la personne va la compenser parce qu'il peut ressembler à de l'orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est justement parce qu'elle a une mauvaise image d'elle-même qu'elle va essayer de compenser cette image-là en voulant paraître plus idéale, en quelque sorte. Et dans ce cas, la personne ne fait pas le choix d'un plaisir d'autosatisfaction, mais elle se protège d'une angoisse due à une faille dans l'estime de soi. Voilà, et dans ce cas-là, la personne, bien souvent, elle a qu'une conscience partielle de sa faille narcissique ou de sa faiblesse narcissique, mais ce qu'elle ressent plutôt, c'est une angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimée, la peur d'être rejetée. Donc, on est bien dans quelque chose de l'ordre du manque et de l'angoisse.
Et pas de l'orgueil. Alors, un autre exemple,
ça va être la pédophilie. On pourrait dire la même chose par rapport à la violence aussi, enfin la violence pathologique. Alors la pédophilie, ça constitue un acte extrêmement lourd en conséquence pour les victimes, mais on va pas analyser comment ça se passe dans le détail et... mais juste repérer quelques aspects. Dans beaucoup de cas, l'individu pédophile peut avoir conscience de faire mal, mais il va être sous la pulsion sexuelle, mais sexuelle pédophile, donc sexuelle orientée vers un enfant, dont il va être complètement dépendant, c'est-à-dire que même s'il a la conscience que c'est pas bien, il est pris par sa pulsion, voilà, et il la subit en quelque sorte. Et ça, c'est le cas, par exemple, des pédophiles. Il y en a un, je crois, il n'y a pas en Belgique, qui a demandé à être euthanasié. Justement parce que il n'arrive pas à gérer sa pulsion. Il y a également peut-être une notion de plaisir à prendre en compte dans le cas de la pédophilie, où la personne peut ressentir un plaisir sexuel. Voilà, mais il arrive aussi dans beaucoup de cas qu'il n'y ait pas la conscience du mal qui est fait. C'est-à-dire que, bien sûr, la personne sait qu'elle va toucher un enfant, mais elle n'a pas conscience qu'elle fait du mal.
La conscience, elle est éteinte, enfin,
Elle est faussée. Alors, il y a deux aspects. D'abord, il y a l'aspect être conscient, donc être dans le présent, en quelque sorte, dans la réalité. Il y a le premier aspect que la personne va être dans un état de conscience un peu modifié parce qu'elle va être sous l'emprise d'un fantasme. Et donc, on pourrait dire, elle va être dans un état... Alors, pour comparer, parce que c'est pas le même état, un peu comme quelqu'un qui aurait bu un peu trop, ou quand on a bu, on n'est plus tout à fait dans le même état de conscience. Mmh, on est un peu troublé, sans être complètement sous, mais voilà, on est un peu troublé. Mais une personne qui est prise dans un fantasme, elle va ressentir un état. Alors, c'est pas le même état que quand on est un peu sous, mais voilà, un état modifié qui fait qu'elle est plus tout à fait pareil que ce qu'on pourra appeler un état ordinaire.
Prise dans un fantasme, c'est-à-dire qu'elle est dans une sorte de...
Un peu dans un mi-rêve.
Mi-rêve,
éveillé.
Oui, mais
un peu comme
ailleurs.
Quand on est sous, voilà, on n'est pas tout à fait nous-mêmes, on est ailleurs.
Oui, oui.
On peut vraiment prendre... Ça, c'est le premier aspect. Mmh. Donc, sa conscience ordinaire est altérée. Mmh. Et puis, il y a l'autre aspect de la conscience du bien et du mal que, très souvent, elle n'a pas. C'est-à-dire, elle n'a pas conscience qu'elle est en train de faire du mal.
Hein? D'accord, oui.
Et ça, ce qui fait qu'elle ne ressent pas de culpabilité.
Ben
aussi.
Oui. Parce qu'elle n'est pas consciente.
Voilà, et souvent, elle est, quand l'entourage découvre et crie au scandale,
elle comprend pas.
Quoi, qu'est-ce qui se passe.
Oui.
Et l'entourage ne comprend pas que
la personne ne
se sente pas coupable et ne comprenne pas. Donc, il n'y a pas de conscience morale de ses actes. Voilà, et on retrouve ça dans la même chose avec la psychopathie, par exemple, dans la violence. Alors, heureusement, il y a la loi qui est là pour rappeler que c'est interdit.
Oui.
Quand on regarde, il va falloir... Le seul moyen, ça va être de faire une psychothérapie pour acquérir... un minimum de conscience morale, c'est-à-dire réaliser que c'est pas bien, que c'est mal, mais
réveiller un peu cette conscience morale.
Enfin la mettre en place.
La mettre en place, oui,
parce qu'elle n'est, elle est pas là.
Elle n'est pas là.
Donc il s'agit vraiment de la mettre en place. Et puis même avant ça, c'est très long parce que faut reprendre toute la construction de la personne et souvent la thérapie qui fonctionne, ça va pas être de remettre en place cette conscience morale, ou en tout cas de pas attendre complètement qu'elle soit remise en place. Ça va être de modifier les fantasmes et d'agir sur la peur que pourrait avoir une personne pédophile à être prise, alors soit la peur de la prison, soit la peur de la honte qu'elle va ressentir quand les autres vont savoir qu'elle est pédophile. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans son fantasme, avec les enfants, puisqu'il s'agit de ça, le fantasme débouche sur le plaisir. Voilà. Et donc, les thérapies qui fonctionnent, c'est à la place du plaisir,
la honte,
d'intercaler, là vous allez vous faire prendre, vous allez avoir honte, vous allez aller en prison.
Oui. Voilà. Et ça réveille quelque part, ça freine du fantasme.
Oui. On remplace, au lieu d'avoir un fantasme où la personne se fait plaisir, et éventuellement même fait plaisir à l'enfant, on va remplacer le plaisir par
une
situation dramatique
qui déplaisante.
Va freiner le fantasme.
Oui, d'accord.
Et puis après, on pourra développer la conscience morale.
On va pouvoir y revenir peut-être dans d'autres exemples.
On voit là que ces maladies-là, que ce soit la pédophilie, ou on pourrait parler de la psychopathie aussi, où la personne n'a pas la notion du mal, de faire mal dans la violence, on est dans des cas qui rejoignent presque la folie, ce qu'on appelle la folie... où la personne n'a ni conscience... morale, enfin, parce qu'elle est complètement ailleurs, ni culpabilité, bien sûr, parce qu'il y a une coupure du réel.
C'est ça, Merci Pascal Parrinet. On va écouter tout de suite Hélène qui est en ligne. Bonsoir Hélène.
Monsieur Parrainé, bonsoir Chantal. Voilà, moi, je suis schizophrène depuis longtemps. Je suis bien stabilisée maintenant.
Oui.
Et je voulais parler de la structure du péché dans la schizophrénie. Je pense qu'il y a vraiment une structure de péché dans cette maladie, à savoir qu'il m'a fallu des années avant, pour faire un travail sur moi-même d'humilité, pour me reconnaître malade, pour me reconnaître ayant besoin de soins, de médicaments. Avant, je croyais que c'était les autres qui étaient fous et moi qui allais très bien, quoi. Et j'avais pas besoin, étant donné que j'étais pas malade, j'avais pas besoin de prendre de médicaments.
Ouais.
Il m'a vraiment fallu tout un travail, un chemin d'humilité pour m'apercevoir que j'avais vraiment besoin de soins et j'avais vraiment besoin de médicaments. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose aussi. Oui, j'étais complètement coupée du monde et des autres.
Ouais.
Complètement dans ma bulle, les autres n'existaient pas, j'étais complètement centrée sur moi, mais au point de même pas voir la nature je la voyais comme une image à la télé, mais je voyais pas les arbres, je voyais pas les oiseaux, je voyais pas la terre, j'étais complètement dans ma bulle, complètement centrée sur moi. Mmh. Alors tous ces péchés, l'orgueil...
Ce sont pas des péchés.
Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que le manque d'humilité, le fait d'être centré sur soi et tout ça, c'est des péchés qu'on regarde chez, que le commun des mortels peut avoir, mais dans la maladie psychique, c'est décuplé.
Oui, mais ce n'est pas de l'ordre du péché, c'est de l'ordre de la maladie.
Ah, je suis d'accord, mais c'est décuplé dans la maladie.
Oui. Oui, tout à fait, mais c'est justement ce qu'on est en train d'expliquer. Vous êtes coupé des autres parce que vous êtes coupé du réel.
Oui.
C'est la maladie qui fait ça.
Oui. Ah, mais maintenant, j'ai fait tout un travail de thérapie, j'ai des médicaments que je prends régulièrement,
ouais.
et maintenant, je vis normalement avec un traitement, quoi.
Ouais. Et ce que vous avez dit au début, c'est important, c'est il m'a fallu du temps pour reconnaître que j'étais malade. Parce que c'est une maladie où on n'a pas conscience qu'on est malade, ou alors on le voit à certains moments, peut-être un peu avant d'entrer, alors quand il y a des délires, par exemple, un peu avant d'entrer, on sent que il y a de l'excitation, et encore, même pas là, parce que souvent la personne se sent en pleine forme.
Oui, euphorique.
Et puis à la sortie du délire aussi, il peut y avoir un mal-être ou. Mais il n'y a pas, c'est juste, alors...
Pas la conscience d'être malade.
Voilà. Oui. Et le problème de la schizophrénie, c'est qu'il n'y a pas la conscience telle qu'on la vit dans la vie courante. C'est-à-dire que la conscience est coupée de la réalité. Et ce que la personne vit, c'est ce qui monte, c'est ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Elle croit que c'est la réalité extérieure.
Oui.
Hein?
C'est des fantasmes.
Oui. Mmh. Voilà, la personne vit en quelque sorte dans son monde fantasmatique,
c'est ça, oui.
Sans percevoir l'extérieur. Et là, c'est pas un péché, c'est vraiment une maladie.
Mmh. Oui, je comprends mieux maintenant. Mmh. Un psychiatre avait dit à ma mère que je vivais un rêve éveillé.
Voilà,
oui,
en quelque
qu'on
sorte.
Tout à l'heure.
Sorte.
Oui.
Alors, sauf que.
C'est plutôt un cauchemar, mais bon.
Voilà, plutôt un cauchemar. Et le rêve éveillé, on reste conscient. Dans le rêve éveillé, en tout cas quand on l'utilise en technique de thérapie, ou même quand on est dans la rêverie, par exemple, on peut être pleinement dans son rêve éveillé, mais on coupe pas complètement avec l'environnement ou avec la réalité. Mmh. C'est-à-dire que une fois qu'on arrête son rêve éveillé,
on retrouve
tout de suite la réalité.
Oui,
alors que dans la maladie, c'est pas le cas.
Oui. Hein? Et vous savez, je sais pas s'il y a des personnes schizophrènes qui écoutent cette émission, mais vraiment, qui n'hésitent pas à aller voir un thérapeute, qui n'hésitent pas à prendre des médicaments. Ouais. Vraiment, ma vie est changée depuis maintenant 15 ans, quoi. Ouais. Depuis que je suis bien mon traitement, que j'ai suivi une thérapie, je vois la nature, je vois les gens, je peux m'exprimer librement, je suis dans le réel. Enfin, ma vie a complètement changé depuis que j'ai accepté de me faire soigner, quoi. Oui.
Voilà. Et surtout, alors, par rapport au thème de ce soir, surtout ne pas croire qu'ils sont dans le péché, ils sont malades, voilà, et qu'ils prennent conscience qu'ils sont malades, qu'ils l'acceptent et se fassent soigner.
Voilà, comme vous avez fait, Hélène. Merci en tout cas de votre témoignage.
Bonne soirée à vous.
Bonsoir et merci.
Merci à vous aussi. On va écouter tout de suite, c'est Simon Dalmet qui chante « Soleil libre ».
Radio Notre-Dame.
J'entends ta vie comme une première fois. Avant la pluie, tu ne reviendras pas. Couvrir les chines, tracer la ligne, passer les Alpes.
Simon Dalmet, Soleil libre. Voilà, donc ce soir, nous parlons avec Pascal Parinet et vous-même de troubles psychiques ou péchés. On fait bien le discernement, hein, pour. On va devoir d'ailleurs les différents points pour le discerner. On écoute tout de suite Guy qui est en ligne. Bonsoir Guy.
Bonsoir Chantal. Bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Je vous appelle en fait pour parler du cas d'une personne qui cause soucis dans son comportement. Je suis bénévole depuis 4 ans dans une association qui s'occupe principalement des Roms, des Tziganes.
Oui.
Et nous avons, l'association a donc une présidente, un CAG, un secrétaire général et un trésorier et un directeur qui, lui, est le créateur de cette association qui a été conçue il y a 20 ans.
Mmh.
ce monsieur a un comportement despotique et tyrannique. Il n'accepte pas les quelques petites remontrances que ce soit. Il n'accepte aucune petite initiative, même si elle rapporte. Il va même jusqu'à détruire l'initiative. Quand il prend quelqu'un, et quand une personne a des petites initiatives, comme j'en ai eu, comme d'autres, il prend ces personnes en grippe.
Ouais.
Voilà. Alors, il va très loin, parce que lorsque la personne n'a pas la puissance pour résister, lorsqu'il prend une personne en grippe pour quelque cause que ce soit, notamment il a pris un jeune, dernièrement en grippe, un jeune roumain, et qui était retourné vers la foi, comme lui est anticlérical, ne peut pas supporter ni l'église, quelque religion que ce soit. Donc il l'a pris en grippe et il l'a sorti comme un malpropre. Du jour au lendemain, ce jeune n'avait plus où loger. Bon, on a pu le loger chez des amis, mais voilà le comportement de ce monsieur. Et en plus, il boit. Il a la boisson. Alors,
ce qui n'arrange rien.
Oui, tout à fait, monsieur. Alors, j'arrive à le tenir un peu en respect. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu cette expérience de harcèlement. Vous vous souvenez, Chantal, je vous l'avais raconté avec ce fameux directeur commercial qui s'était retourné un jour au sortir d'un repas, qui m'avait demandé pardon. J'avais raconté cette histoire avec le pasteur Philippe Osney.
Oui.
Voilà. Donc, quand on a cet entraînement, et puis j'ai 65 ans, et puis lorsqu'on fonctionne avec le Christ, surtout, c'est ça qui est très, très important, dans le but non pas de faire du mal à la personne, mais bel et bien de l'aider à entrevoir son comportement et y remédier ou lui donner la possibilité d'y remédier, donc on se sent un peu plus fort et ça avance un tout petit peu. Mais c'est pénible. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, donc qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai déjà eu un entretien avec lui au mois de décembre, le 24 décembre, après avoir demandé pendant un an un entretien, et je lui ai fait part donc de tout ce qu'il faisait de bon, et je lui ai fait part de ce qu'il faisait de mal, et la destruction qu'il faisait par son comportement. Voilà.
Ben, moi, je pense avec ce genre de personnes, il faut rester très factuel, c'est-à-dire sur des choses objectives, indiscutables, voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de ni d'enjeu affectif ni d'enjeu de pouvoir, parce que dans ce que vous décrivez, cette personne finalement ce à quoi elle tient, c'est à son pouvoir.
Oui.
Ah, et peut-être qu'elle considère cette association comme la sienne et
oui.
Elle
dit, je fais ce que je veux.
Voilà, elle veut pas lâcher son pouvoir.
Et là, cause du dégât.
Voilà, et là, le seul moyen, c'est d'être dans... j'ai envie de dire au ras des pâquerettes, c'est-à-dire vraiment dans le concret, dans l'objectif, de façon à ce que ça élimine toutes les notions de pouvoir, mais qu'on reste vraiment sur le factuel.
C'est ce que je fais.
Voilà.
Ce monsieur... à peu près plus en grippe, mais il y a un mois, comme après la discussion que j'ai eue avec lui, et après en avoir parlé avec la présidente, j'avais demandé à la présidente, est-ce que ce monsieur, est-ce qu'un tel, t'a parlé de la discussion que j'ai eue avec lui? Elle m'a dit oui. Donc je peux te parler de cet entretien. Et quelques jours plus tard, un soir, il m'a appelé, il m'a encensé. C'est bien simple, j'avais plus qu'à aller dans ma chambre, prendre une auréole, et puis... voilà, je suis bénévole 24 heures sur 24, et il m'a dit, tu fais du très bon boulot dans l'association, c'est formidable, etc., etc. Ouais. Je me méfie aussi.
Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est de sortir du rapport de force avec ces personnes.
Oui.
Parce que ce qui est en jeu, c'est leur pouvoir qu'ils veulent pas lâcher. Et donc, à partir du moment où on sort du rapport de force et qu'on est dans les faits, voilà, ça met pas en danger leur pouvoir ou leur reconnaissance ou leur orgueil ou peu importe. Voilà, et du coup, ils peuvent aussi accéder à l'autre et même reconnaître, encenser l'autre, dans la mesure où ils se sentent pas en danger par rapport à leur pouvoir.
Oui, j'ai eu une petite discussion avec lui, c'est hier, et il m'a dit, tu veux ma place?
Ouais, vous voyez,
surtout pas, et ce serait une injustice, je lui ai dit.
Voilà,
ce serait une injustice.
Donc il est rassuré. Il est rassuré.
Ouais. Cependant, il fait du dégât. Alors, il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de très bonnes choses. Enfin, l'association, on fait beaucoup de très bonnes choses. Mais on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et puis il y a des gens qui partent.
Ouais.
Des gens de valeur qui sont bons.
Mais vous savez.
Pas la capacité à résister. Moi, j'ai cet entraînement, grâce à Dieu.
Ouais.
Je suis calme. Je suis, j'ai la paix dans mon cœur quand je combats. Parce que j'ai eu cet entraînement, le bon Dieu m'a mis face à des difficultés, finalement, tu vas remettre ça, mon gars.
Mais vous savez, malheureusement, c'est partout, et c'est vrai dans les associations, c'est vrai dans les entreprises, et finalement, l'énergie qui se perd dans des rapports humains conflictuels ou des rapports de pouvoir, si elle était utilisée dans la coopération, le monde serait quand même beaucoup plus beau.
Et puis on perd de l'argent aussi, on perd du temps.
C'est comme ça, un peu. C'est partout.
Oui, finalement, ces paroles que vous venez de prononcer, ça me rassure. Bon, enfin, ça me conforte. Je me dis que c'est la vie, quoi. Mais bon, c'est quelquefois.
C'est l'humain, c'est l'humain comme ça.
Ouais. C'est humain, mais c'est usant, Chantal. Vous savez.
Ah bah oui, tout le monde est confronté à ça, partout.
Oui. Cependant, moi, j'ai l'expérience de la chose. À chaque fois, lorsqu'il y a eu certaines dérives, certains comportements comme celui de ce monsieur. Le club, l'entreprise se casse la figure. C'est dans la quasi-majorité des cas, lorsqu'il y a une personne qui va trop loin, qui n'est
évident.
Ouais.
Qui n'est pas retenu, à un moment donné, ça se casse brutalement la figure.
Parce que c'est pas juste, c'est pas ajusté.
Tout à fait.
Mais oui.
Voilà, c'est mon expérience, c'est un monsieur qui n'est pas structuré. Moi, j'arrive à reprendre des choses en main, ça le rend jaloux, voilà. Et je voudrais lui faire comprendre que je lui ai dit du reste, je lui dis tu es un grand patron pour cette association, tu es un grand patron. Et je te passe pas de la pommade dans le dos, pas du tout. Tu es devenu sans t'en rendre compte, tu es devenu un grand patron et tu dois déléguer. Il faut déléguer. Tu ne peux pas tout faire.
Il faut bien s'entourer, surtout vous savez, une entreprise c'est comme un homme, comme une personne. Il faut une tête, un cœur et des bras.
Tout à fait.
Et c'est rare qu'un patron ait les trois. Ça arrive.
Oui, tout à fait.
Mais ça veut dire que s'il a plutôt la tête, il faut qu'il ait des adjoints, un qui a un cœur et l'autre qui a les bras. S'il a plutôt les bras, qu'il est plus dans l'action, il faut qu'il ait un adjoint plutôt dans la tête et un autre plutôt dans le cœur.
Il faut les trois composantes.
Voilà, il faut les trois composantes pour que ça fonctionne bien. Ça déséquilibre.
En tout cas, merci Guy de ce témoignage.
C'est moi qui remercie de cette écoute, parce que ça me conforte.
Vous n'êtes pas tout seul. C'est le fonctionnement humain.
Vous avez des gens de valeur qui s'en vont de cette association.
Mais ça fait partie des choses de partout de la vie.
Mais là, on sort un peu de notre thème et on est plus dans la complexité des rapports humains avec tout.
Voilà, merci en tout cas. Bonsoir et bon courage. Voilà. On va peut-être poursuivre un petit peu, voir Pascal Parinet, les discernements, discerner comment, puisqu'on a donné des exemples tout à l'heure de troubles pour discerner entre.
Quelques exemples un peu caractéristiques pour aider à clarifier un peu sur des choses qui montrent vraiment.
Bon, moi, que le discernement est nécessaire.
Mais en tout cas, c'est nécessaire dans beaucoup de cas. Et le discernement pose d'abord la question du libre arbitre. Pour qu'il y ait péché, on a vu qu'il était nécessaire qu'il y ait un libre arbitre, donc une liberté de choisir. Mais en même temps, on sait tous que c'est pas si simple que ça. D'abord, les pères du désert disaient mauvais usage du libre arbitre, mais ils précisaient pas si c'était volontaire ou pas.
Ah oui.
Et ils associaient souvent le péché à la maladie.
C'est ça, il y avait confusion. Enfin voilà, c'était. Voilà.
Ils voyaient qu'il y avait. En tout cas, ils comparaient le péché à la maladie de l'âme.
Mais des fois, on n'a pas beaucoup évolué dans le.
Et non.
Voilà, c'est pour ça que c'est important de faire le discernement, oui.
Et puis on sait, avec la connaissance de l'inconscient et tout le fonctionnement du psychique, combien parfois nos actes peuvent être influencés par des aspects inconscients, et finalement combien notre liberté de choix, elle peut être limitée aussi.
Ben oui.
Hein? Et puis à ça s'ajoutent parfois des circonstances liées à l'environnement qui peuvent être plus ou moins contraignantes pour l'individu. Voilà. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, quand on veut discerner est-ce que c'est vraiment un péché ou est-ce que c'est plutôt une difficulté psychologique, quand c'est vraiment la maladie, c'est un peu plus clair, bien que, voilà, on le voit avec la pédophilie, c'est pas si clair que ça pour les gens, mais ça devrait l'être. Voilà, en tout cas, à chaque fois, il est important de considérer quel est le degré de libre arbitre de la personne pour vérifier s'il ne s'agit pas d'un trouble psychologique. Une personne qui est sous la dépendance d'une pulsion, qui subit complètement sa pulsion, elle n'a pas de libre arbitre. Voilà, il faut le savoir.
Oui.
Et puis, il y a des fois, c'est pas l'un ou l'autre, parce que la réalité, elle peut être plus complexe, mais ça peut être un mélange des deux, c'est-à-dire à la fois une difficulté psychologique qui va inciter au péché, et puis un consentement tacite de la part de la personne, parce que finalement, c'est plus facile d'aller vers la descente que vers la montée. Voilà. Et c'est ça qui convient de discerner. Est-ce qu'on est vraiment dans... Est-ce que la personne est libre? Est-ce qu'elle est sous la dépendance d'une pulsion ou de processus inconscient? Ou est-ce que elle donne son accord d'une façon tacite ou pas?
Mais c'est complexe, hein?
Oui, c'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple.
Après, il y a la question de la conscience.
Oui.
Et là, il convient de différencier la conscience et la conscience morale. Tout à l'heure, j'ai parlé dans la pédophilie qu'une personne prise dans son fantasme, elle était dans un état de conscience modifié. C'est pareil pour les troubles compulsifs ou les addictions sexuelles, par exemple. La personne est prise dans son fantasme et sa conscience, elle est un peu comme saoule à cause du fantasme. Et puis, la conscience morale... qui, elle, est vraiment importante parce que c'est elle qui va définir si la personne est en état de péché ou pas. Est-ce la conscience qu'elle fait de faire du mal? Pour prendre un exemple, un bébé qui pousse une colère, et ça arrive vraiment, est-ce qu'il est en état de péché?
Non.
Bien sûr que non. Et pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas la notion du bien et du mal. Et pourtant, les bébés peuvent piquer des colères avec une rage et une violence et une agressivité quand ils se sentent très mal.
Oui, oui.
Mais ils n'ont pas conscience du bien et du mal, donc ils ne sont pas en état de péché. Ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un dire « faut aller confesser ton bébé parce qu'il a fait une colère ». Et d'ailleurs, voilà, faut toujours se rappeler que le péché originel, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et une personne qui n'a pas cette connaissance-là, ou cette conscience-là, elle ne peut pas être dans le péché.
Grand merci, Pascal Parinet. On va écouter tout de suite, c'est Marie-Myriam qui chante « L'oiseau et l'enfant », justement.
Radio Notre-Dame.
lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant.
L'oiseau et l'enfance des Marie Myriam. Voilà, on arrive presque à la fin, donc on va peut-être résumer, aller un peu plus vite pour pouvoir dire l'essentiel.
Voilà, donc on disait la question de la conscience morale, il y a aussi, on a parlé tout à l'heure de la schizophrénie, du délire.
Oui.
La personne est coupée de la réalité, il n'y a plus de conscience au sens où on l'entend nous, elle est dans le délire.
Ben oui.
Et du coup, elle peut pas être en état de péché.
Ben non, c'est évident.
Même si elle fait du mal, hein, on sait qu'il y a eu des faits divers et délires qui conduisent à des choses mal. Mais d'ailleurs, la justice reconnaît,
elle prend en compte, bien sûr, qu'il n'y a pas de l'acte
et l'irresponsabilité de la personne parce que sous l'influence du délire, ce qui n'empêche pas. Et c'est là où c'est important, je crois, c'est, il y a l'aspect péché, ben non, c'est pas un péché, mais ça n'empêche pas de protéger les autres.
Ben évidemment.
Et protéger la personne,
ben,
et donc
dit, hein.
De l'obliger à se soigner.
Et alors, puis de l'écarter, évidemment, des enfants,
ben,
si c'est
voilà,
le cas de vie,
si
c'est
on
le
prend
B.A.B.A.
La pédophilie, le B.A.B.A., c'est,
ben, oui, ça, c'est...
pas de possibilité de proximité avec les enfants. Alors, même si dans l'absolu, c'est pas toujours possible, mais en tout cas,
prendre
pas,
toutes les mesures,
pas de mission auprès des enfants, que ce soit pour un prêtre, que ce soit pour un éducateur,
un
professeur, enfin, qui vont la plupart du temps dans les milieux où il y a des enfants. Voilà, là, il faut complètement supprimer tout contact avec les enfants pour diminuer au maximum le risque.
Oui, ça va de soi, ça c'est le premier.
Ça c'est la première chose. Ah. Et le deuxième point, c'est de faire soigner
la personne.
Personne
se soigne, oui.
Voilà. Alors quand c'est la justice maintenant, la justice donne des injonctions de soins, c'est-à-dire une personne qui serait jugée pour pédophilie Donc, elle est obligée d'entreprendre une psychothérapie. Mais même pour ceux qui n'ont pas été jugés ou qui ont prescription, je pense que c'est une maladie. On peut pas dire la personne, ça fait 10 ans ou ça fait 20 ans, c'est guéri, non. Avec la pédophilie, on peut pas raisonner comme ça. Ça veut dire que même si ça fait 10 ans, il faut qu'elle aille se faire soigner et qu'on l'écarte des enfants.
Ben oui.
Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, puisque en ce moment, nos évêques sont en train de mettre en place des systèmes, il y a une dizaine d'années, enfin, pour protéger, justement, pour accueillir les victimes. Alors, les victimes aussi, c'est un traumatisme, là, d'avoir subi des agressions sexuelles. Donc, la victime, je pense que c'est bien qu'il y ait des cellules d'écoute, mais ces cellules d'écoute doivent réorienter vers des professionnels.
Ben
parce
oui,
que,
bon, bien sûr.
C'est pas
suffisant.
C'est pas un bénévole qui va écouter. Je crois qu'il faut vraiment que la personne elle a besoin d'une thérapie et voire de.
Vraiment d'une aide.
D'une aide professionnelle. Et voilà. Et donc, ces cellules d'écoute, elles peuvent être un premier lieu d'accueil, mais qui doit réorienter vers des professionnels. Et pour les pédophiles, il y a 10 ans, j'avais visité aux États-Unis, à l'époque d'ailleurs, il y avait eu un scandale aussi, une clinique spécifique pour les religieux, donc qui accueillait alors tout type de problématiques, l'alcoolisme, alors c'est à l'échelle des États-Unis,
faut le
remettre à leur échelle, mais des prêtres ou des religieux dépressifs, alcooliques et pédophiles. Et donc, c'est la clinique Saint-Luc qui est près de Chicago. Pas de Chicago, près de Washington, mais il y en a plusieurs aux États-Unis, avec tout un programme de thérapie à la fois individuelle, à la fois en groupe, avec des groupes spécifiques sur les problématiques. Voilà, puis en même temps, comme c'était des religieux, des temps de prière, il y avait aussi des exercices physiques pour reprendre contact avec son corps, parce que le problème de tous ces troubles, c'est qu'il y a une coupure aussi
avec le corps.
Voilà. Donc il y a des choses qui existent déjà, peut-être on peut s'en inspirer
en France oui.
Ou en tout cas, même si c'est peut-être plus compliqué à l'échelle de la France de créer des institutions comme ça, parce que c'était un traitement dans la durée, à temps plein, enfin quelque chose d'assez très intensif, en tout cas de systématiquement renvoyer vers des professionnels pour que la personne se fasse soigner.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, on disait qu'il y avait la notion aussi du mal qu'on se fait
et qu'on
fait aux autres.
Oui.
Parce que c'est important de prendre en compte la question de la souffrance. C'est pas pareil de se faire souffrir soi-même par un comportement inapprié et de faire souffrir les autres,
eh ben
je
oui,
pense.
Bien sûr.
Et que, à mon sens, il y a quelque chose de plus grave. Alors, peut-être pas spirituellement, mais en tout cas sur l'impact psychologique, quand on fait souffrir les autres, il y a quelque chose qui est sur le plan humain plus douloureux. Alors, je sais bien que c'est pas facile à entendre. Mais c'est pas tout à fait pareil si on se fait souffrir soi-même parce qu'on a un trouble.
Oui.
Dans,
Mais si on fait souffrir,
on
oui,
peut
les
se
autres.
Faire, on peut prendre la décision de se faire soigner et de se prendre en main. Quand on a fait souffrir quelqu'un d'autre, voilà, c'est fini et c'est à la victime de se débrouiller avec le mal qui a été fait. Donc il y a cette notion-là aussi qui est à prendre. En compte, indépendamment du libre arbitre et de la conscience morale.
Alors, l'interaction peut-être entre péché et trouble, on peut voir rapidement.
Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu qu'il y a tout l'aspect pulsion, désir, besoin, instinct, qui relève en quelque sorte de quelque chose qui émane du corps. Et donc de toute la partie inconsciente qui parfois va être en contradiction avec la conscience morale, pas toujours mais parfois, qui est une autre instance, c'est-à-dire il y a pour résumer, on va dire il y a trois instances. Il y a le ça. Le ça, c'est tout ce qui monte de l'inconscience et ça me pousse, ça me fait, ça m'incite, donc toutes les pulsions, les instincts, voilà. Ça, c'est ce qui émane du corps. Il y a la conscience morale. Et puis entre les deux, il y a le moi, qui va essayer d'être le régulateur entre ce qui s'oppose des instincts et des pulsions à la conscience morale. Et donc, le moi, c'est ce qui nous fait reconnaître comme personne, comme unité, mais aussi c'est ce qui nous permet de réguler. Et donc, on voit que, en fonction... de ce qui monte ou de la conscience morale, moi, il va avoir un travail qui peut être plus ou moins difficile. Et que s'il est fragilisé, il n'arrivera pas à gérer.
Oui, oui.
Et que une des premières choses à faire,
c'est de
renforcer le moi, de l'aider à gérer, tout en régulant, alors ça, mais c'est le travail de thérapie, à la fois l'aspect pulsionnel qui peut monter, mais aussi l'aspect moral qui, parfois, peut être excessif et affaiblir aussi le moi. Voilà, donc c'est...
Là, on arrive à la fin, là.
Voilà, je pense que s'il y a quelques questions en suspens.
Philippe est croyant. Dès qu'il va bien, il entend des voix de blasphème. Il doit prendre des neuroleptiques, schizophrénie. Des amis prêtres ont dit qu'il n'y a rien à voir avec le malin. Où est la maladie? Où est le péché?
Il est dans la maladie. Voilà. C'est la schizophrénie ou c'est des hallucinations.
Alors, Marie-Christine, un psychiatre avait expliqué à des amis d'une association que la pédophilie, c'est une forme de perversion.
C'est une perversion.
Oui, mais c'est une façon de se protéger d'une psychose.
La perversion, c'est une façon, c'est une défense. Alors bon, est-ce que c'est une on va pas rentrer dans le détail. Là, on rentre vraiment dans le détail.
Donc là, il y avait Jean-Pierre qui demandait les renseignements, on lui a donné, mais pour tous. Stage du 23-24 mai.
Sur la dépendance affective, comment en sortir.
Oui.
Donc, c'est d'aider les personnes à sortir des dépendances.
Et puis, en juillet, sur confiance en soi, mais aussi harcèlement, violence, etc. Alors, renseignement 06 84 49 35 19, contact@ifpsy.com, mais tous les renseignements sont au standard dans la journée, si vous n'avez pas noté. Voilà. Un grand merci, Pascal Farine, et merci à tous. Merci à Marielle au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD et en podcast. Demain à 22h, écoute, dans la nuit, notre invité sera le père André-Marie, bénédictin, potier, peintre et poète. Le thème de la soirée, ressuscité au quotidien. Très bonne nuit à tous. Je vous rappelle que demain, vendredi 15, les semeurs d'espérance à l'église Saint-Gervais, comme d'habitude, sera avec le Fabrice Hadjadj. Debout les hommes, c'est ça le thème. Très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.